moment, mais leurs options ne nous concernent pas vraiment. Je mentionnerai, là, par exemple, John Hick, parce que son exemple est quand même un exemple instructif pour nous. Il nous avertit d'un danger qui demeure encore autre que ce que je viens d'évoquer. John Hick a commencé comme évangélique. Et sa vie a été un éloignement progressif des positions évangéliques de son tout début. Il a eu des positions relativement intermédiaires. Au moment où il a écrit son livre très fameux sur le problème du mal, il n'était pas encore tellement éloigné, et il s'est éloigné de plus en plus, et maintenant il est l'avocat d'une révolution copernicienne en matière de théologie et de religion. Et il veut dire par là qu'alors que le christianisme ancien a tout fait tourner autour de Jésus-Christ, comme avant Copernic, on faisait tout tourner autour de la Terre, il s'agit maintenant de reconnaître qu'il faut une révolution, que tout doit tout tourner autour de Dieu, du divin, disons, Jésus-Christ comme Bouddha, comme Confucius, comme Mahomet, vous voyez, révolution copernicienne. Ce n'est pas autour de Jésus-Christ, entendez la Terre, que tout doit tourner, c'est autour du divin, qui peut avoir des formes très peu personnalisées dans l'hindouisme ou le bouddhisme, et c'est donc un reniement purement pur et simple de tout privilège reconnu à Jésus-Christ. Oui, pour moi, puisque j'ai été élevé comme chrétien, c'est Jésus-Christ qui est la figure qui évoque pour moi le divin, mais pour un bouddhiste, ce sera Bouddha, etc. Voilà à quoi John Hick a abouti alors qu'il a commencé comme un évangélique. Mais je laisse de côté cet exemple extrême et je m'attache à trois exemples qui peuvent exercer plus de séduction sur nous. Il y a la théologie du grand jésuite, qui est l'un des tout premiers théologiens catholiques du XXe siècle. Je me rappelle Jean Bosque, qui était un pionnier du dialogue écuménique et qui était le Barthien peut-être numéro un à son époque en France. Je l'avais comme directeur quand j'ai abordé les études de troisième cycle. Et il me disait, en me parlant de Ranner, il est l'équivalent chez les catholiques de Karl Barth pour nous. Alors, quand on sait qui était Karl Barth pour Jean Bosque, et ce qu'il a été effectivement en ce temps-là pour le protestantisme, se rend compte de l'importance de Ranner pour le catholicisme. Karl Ranner a fait connaître un thème, il a trouvé une formule qui a eu grand succès, un thème très proche du souci que nous avons ensemble dans ce séminaire, celui des chrétiens anonymes. Il affirme avec force qu'il n'y a de salut que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul médiateur. Et c'est uniquement donc en étant comme branché sur lui que les humains peuvent parvenir au salut. Mais il affirme que cette possibilité de se brancher sur Jésus-Christ est offerte dans toutes les religions. Ces religions jouant un rôle positif à cet égard. Vous voyez dans quel sens il peut parler de chrétiens anonymes. Il y a des gens, c'est pas tous, hein, il n'est pas strictement universaliste. Mais il y a des gens dans toutes les religions qui, en fait, par leur disposition de cœur, sont rattachés à Jésus-Christ, sont donc des chrétiens, sans savoir, sans en porter le nom, donc anonymes. Et il y a, je pense, deux arguments principaux qu'il met en valeur. Et ce sont des arguments qui ont une réelle force dans les questions que j'ai mises au bas de la feuille. Je pose celle-ci. Comment répondre aux arguments savamment aiguisés par le Karl Rahner? Alors, je résume les deux que je considère comme les plus puissants. Il y a l'affirmation de la volonté salvifique, cet état de salut universel de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, ce que Dieu veut, il le réalise. En tout cas, il en réalise les possibilités. Si vraiment Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comment pourrait-on imaginer qu'il ait laissé des centaines de millions d'hommes pendant des siècles et des siècles sans aucune possibilité d'être sauvés? Il doit y avoir un moyen. Voilà l'argument qui est puissant. En tout cas, j'en ressens la force. Et puis l'autre argument, c'est le caractère social de l'être humain et le fait que dans la relation à Dieu, ce n'est pas l'individu pur qui se trouve là devant le Très-Haut. L'être humain est un être social, ça appartient à son essence, et donc si l'être humain a dû avoir une chance de recevoir le salut par Jésus-Christ alors qu'il se trouvait au fin fond de Java au XIIe siècle, si l'être humain a dû recevoir une chance, ça a dû passer par les structures sociales de sa religion. On ne peut pas abstraire l'individu et dire Dieu a donné une chance à l'individu, mais ce n'était pas sa religion du tout, parce que l'individu ne peut pas se dissocier de sa religion. C'est un être social, le rapport à la divinité était réglé par la religion, il a donc fallu que cette religion joue un rôle positif pour le salut. Voilà l'argument de Rahner, il est subtil. Clark Pinnock, deuxième exemple, porte l'étiquette évangélique. C'est un théologien canadien qui, je dirais, lui aussi vient de positions évangéliques tout à fait nettes et carrées au tout début de sa carrière. Il est maintenant, je pense, à l'âge de la retraite à peu près. Il est en fin de carrière. Mais Clark Pinnock, assez vite, je pense après quelques années d'enseignement plus traditionnel dans le registre évangélique, a adopté des positions plus larges, tout en les défendant comme options évangéliques, sur toute une gamme de sujets. Et, entre autres, il a défendu l'idée que les humains pouvaient accéder au salut, même sans une connaissance explicite de l'Évangile, et en se servant des religions dites païennes, ou éventuellement du judaïsme et de l'islam, comme du moyen qui les acheminait vers Dieu. L'argument principal qu'il emploie à cet égard concerne les puissances. Il choisit comme modèle d'interprétation ce qui est dit des puissances, des exousiai, des autorités et puissances dans le Nouveau Testament. Ces autorités et puissances qui étaient rebelles, opposées à Dieu, c'est contre elles que se déroule notre combat d'après Éphésiens 6, ont été vaincues à la croix et sont en quelque sorte contraintes de servir le Seigneur, d'être des instruments dans la réalisation du plan de Dieu. C'est ainsi qu'il comprend donc Colossiens 2, par la croix, il a triomphé d'elles, elles sont maintenant dans son cortège, elles sont ses puissances enchaînées, et c'est pourquoi, conclut-il, il n'est pas seul à interpréter les textes de cette façon, nous avons à nous soumettre aux puissances d'après Romains 13. C'est le même terme, et donc il voit là l'expression d'un changement de statut de ces puissances qui sont maintenant mises au service du règne de Dieu et jouent un rôle positif pour Dieu en dépit de leur rébellion originelle. Il argumente, les religions font partie de ces puissances. Comme l'État, qui est une de ces puissances, d'après Romains 13, les religions sont des puissances qui tenaient les hommes esclaves, mais qui ont été vaincues et maintenant servent le dessein de Dieu. Et donc, à partir de cette idée de la victoire de la croix, les religions reçoivent un rôle positif par rapport au salut dans le schéma que propose Clark Pinnock. Il associe à cela aussi l'idée d'une seconde chance après la mort, donc sa position n'est pas une position entièrement homogène et simple. Aux yeux de certains, je prends un troisième exemple, mais à mon avis, il serait nécessaire de scruter beaucoup plus finement les choses, le discours de Shafik Keshavji serait aussi un discours de même portée que celui de Pinnock et serait trop laxiste en ce qui concerne la possibilité d'accéder au salut. J'ai lu plusieurs articles dénonçant les thèses affirmées par Shafik Keshavji. Shafik Keshavji a été le secrétaire général des groupes bibliques universitaires en Suisse romande pendant tout un temps, quand il était plus jeune. Il est pasteur maintenant de l'Église réformée du canton de Vaud. Et il a écrit un livre extrêmement brillant que j'indique tout en bas de la page, sous forme de roman, Le roi, le sage et le bouffon, le grand tournoi des religions. Il y montre un très, très grand talent, et du point de vue pédagogique, pour donner une vue sympathique des grandes religions, je pense qu'on ne fait guère mieux. Ça se lit très, très bien, c'est très, très habile, et il a une audience importante en Suisse romande. Il est charmeur à tous égards, et charmeur à l'adresse des représentants des autres religions, judaïsme, islam en particulier, bouddhisme, hindouisme, et certains, en tout cas, jugent qu'il l'est beaucoup trop, qu'il fait des concessions importantes par rapport au salut en Jésus-Christ. Je parle en rapportant le sentiment de plusieurs qui a été publié, donc je ne pense pas que je rapporte des ragots. Cela a été dit avec sérieux par certains, et en même temps, je n'adhère pas à 100%. Pour quelles raisons ? Principalement parce qu'une journée avait été organisée de duo, de duel, si vous voulez, entre lui et moi, par l'Institut de missiologie d'Emmaüs. Toute une journée où nous devions parler de ce sujet ensemble, devant l'auditoire. Il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer, c'est vrai. Mais il m'a laissé parler et a dit qu'il était d'accord. Donc, je ne peux pas, après l'expression de son accord, donc lui imputer forcément des vues qui seraient très différentes. Je crois que pour une bonne part, nous avons à tenir compte du style, d'une manière de faire, je dirais plutôt enjôleuse et brillante du point de vue littéraire. Son objectif, à coup sûr, c'est d'adopter une manière très irénique et complètement détendue de dialogue entre les religions. Dans son livre, à mon avis, le seul personnage qui est vraiment très peu crédible, c'est celui du musulman qui ne correspond pas du tout à tous les musulmans, même les plus ouverts au dialogue que j'ai rencontrés. Il n'y a pas plus humble et autocritique en tant que musulman que le représentant de l'islam dans son livre. Alors il y a bien deux ou trois petites phrases qui montrent qu'il sait que ce n'est pas très caractéristique, que ce n'est pas typique. Mais je pense que là, il y a quand même un petit coup de pouce qu'il donne. Il y a un élément dans son livre qui est très gênant, très très gênant, quelques lignes, mais je le signale quand même. À un moment donné, il fait dire à son représentant du christianisme, donc apparemment, le porte-parole des propres convictions qu'il a, que Jésus-Christ, au fond, est dans la même situation à l'égard de Dieu que nous, seulement qu'il est plus transparent au mystère du divin. J'espère que ce n'est qu'un lapsus. Si vraiment c'était toute l'interprétation qu'il gardait de la divinité de Jésus-Christ, alors ce serait une hérésie très grave. Mais je n'ose pas lui imputer cela. J'ai l'impression que ce peut être, à cause de son style, juste un lapsus, il ne s'est pas rendu compte, me semble-t-il, de la portée de ce qu'il disait là, mais je le signale quand même dans ce livre. Certains, donc, sont très en alerte et en alarme à l'égard des vues qu'il diffuse, mais je pense que nous ne devons pas le classer trop vite, en tout cas. Je signale encore le statut particulier de l'islam et du judaïsme, avec leur proximité, leur relation à l'écriture, et les complexités de cette relation à l'écriture même, surtout pour l'islam, mais aussi pour le judaïsme. Je n'en dis pas plus parce que le temps passe, je passe mon coup à gauche, contre une étroitesse excessive. Si nous rejetons les options de Rahner ou de Pinnock, sommes-nous contraints alors de croire à la perdition certaine, inéluctable, de tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile proclamé de manière explicite, détaillée? Je crois qu'il faut souligner, et ce n'est pas du tout récent, que l'orthodoxie, sans être unanime sur ce point, l'orthodoxie évangélique, issue de la Réforme, a compris une tradition qui répond par la négative, qui dit que notre affirmation, selon Matthieu 11, selon Jean 14, que nul ne vient au Père que par le Christ, et notre rejet de théologie semblable à celle de Rahner ou de Pinnock, ne nous entraîne pas à dire alors tous ceux que les missionnaires n'ont pas réussi à atteindre sont nécessairement et automatiquement perdus. Déjà, un théologien de l'époque de Calvin, Jérôme Zanchi, un des théologiens importants de la deuxième période de la Réformation, et puis ensuite au XVIIe siècle, un théologien de très grande qualité, le Hollandais Herman Witsius, ont défendu de manière très très nette cette idée qu'il peut y avoir salut, même s'il n'y a pas eu explicitation et information détaillée en ce qui concerne l'œuvre et le nom de Jésus-Christ. Et dans le temps présent, des évangéliques de grand renom et d'identité tout à fait certaine, comme Norman Anderson, qui a été un des grands piliers des groupes bibliques universitaires en Grande-Bretagne, ont défendu cette interprétation moyenne. J'ai l'impression, l'évaluation est très difficile à faire, mais que ce serait à peu près la moitié des théologiens évangéliques dans le monde qui pourraient s'y rattacher, et une autre moitié aurait une position plus étroite. Il me semble qu'on est à peu près dans de telles proportions, mais je n'ai pas fait de sondage pour vérifier, c'est donc purement intuitif. L'argument, il y a divers arguments, mais l'argument qui porte sur les croyants de l'Ancien Testament est peut-être le plus fort. Les croyants de l'Ancien Testament, d'après le témoignage très clair du Nouveau, ont été sauvés et sauvés par Jésus-Christ. C'est par la foi en lui d'avance qu'ils ont obtenu le salut. Mais que savaient-ils? Ils ne savaient pas, en tout cas, qu'il s'appellerait Jésus. Ce n'est pas dit dans l'Ancien Testament. Le nom de Jésus-Christ ne signifie pas les deux syllabes qui constituent le nom, Yeshua. Ils ne savaient pas le nom dans ce sens étroit. être sauvé par le nom de Jésus-Christ, ça veut dire être sauvé par lui, par son œuvre, portant sa confiance en lui. Les croyants de l'Ancien Testament ont mis leur confiance d'avance en celui qui allait venir, sans savoir son nom à l'état civil, sans savoir exactement à quel moment il allait venir, comment ça allait se passer. Il y avait une information minimale, mais qui n'était pas celle que le Nouveau Testament nous apporte lorsque l'Évangile est proclamé, prêché. Et chez certains, cette information a pu être quand même très réduite, et penser à Melchisédek, penser à peut-être à Job, avant son épreuve, la révélation très spéciale qu'il a reçue. Le cas des croyants de l'Ancien Testament nous oblige à dire que la foi en Jésus-Christ, indispensable pour le salut, ne requiert pas un montant d'informations très détaillé, très substantiel et détaillé, que ce peut être en quelque sorte dans le flou ou le vague, comme pour les croyants de l'Ancien Testament. Il y a aussi certains faits d'expérience qui ont pu être évoqués. Un livre a eu pas mal de succès autrefois, « L'éternité dans leur cœur » de Richardson, qui tente à recueillir des faits apparemment bien attestés dans l'histoire sur la présence dans des populations que les missionnaires n'avaient pas pu atteindre, déjà d'éléments, par exemple, de prophéties qui préparaient les cœurs à la prédication de l'Évangile et qui ont pu servir donc à faire naître une foi authentique, bien que rudimentaire et peu instruite, en Jésus-Christ pour le salut. Alors, si on admet cette ligne, personnellement, j'y adhère, il y a des questions très délicates qui se posent. Il y a la question du potentiel salvifique de la révélation générale elle-même. Si nous pensons qu'il y a eu des êtres humains qui, sans la prédication claire de l'Évangile, ont pu être sauvés, dans tous les peuples de la terre, à toute époque, est-ce qu'il a fallu pour cela une révélation spéciale de Dieu ? Songe, prophétie, vision, je pense que Dieu en a usé. Mais est-ce que c'était indispensable ? Ou y avait-il assez de lumière dans la révélation générale, la création et la providence, montrant que Dieu est un Dieu d'amour et de justice, que l'homme ne peut pas s'en tirer par lui-même, mais qu'il peut se projeter vers ce Dieu qui, dont la puissance éternelle est la divinité, donc aussi la grâce, la divinité, se révèle dans ses œuvres. Est-ce qu'il y a assez de lumière là ? Beaucoup d'évangéliques préfèrent dire non, il y a assez de lumière pour condamner, pas assez de lumière pour que l'être humain puisse accéder au salut. Moi, il me semble qu'on peut admettre qu'il y a assez de lumière aussi pour l'accès au salut. Mais c'est une thèse limite. Oui. Et c'est un sujet extrêmement délicat. Je ne développe pas, puisque ce n'est pas le temps, mais je signale cette question sérieuse à affronter. Et puis, alors, en deuxième rang, la part des religions humaines. Dans cette situation, est-ce que les religions humaines peuvent servir positivement par rapport au salut ? Certains franchiraient ce pas et se retrouvaient du coup relativement près de Pinocchio. Là, personnellement, j'en suis incapable. Je suis prêt à dire, oui, bien sûr, il y a des fragments, des petits reflets de la vérité salutaire, de la bonté de Dieu et de sa justice dans toutes les religions. Mais foncièrement, comme système, comme ensemble qui exerce leur emprise sur les humains, les religions sont traitées dans l'Écriture comme des facteurs négatifs, comme des instruments démoniaques, en fait. Ce qui me frappe le plus, c'est la manière dont Paul traite des religions de son temps. Et du coup, je pense qu'il est vraiment trop éloigné de l'écriture, d'une imprudence que je ne peux pas admettre, de leur accorder un rôle positif en tant que religion, en distinguant de tel ou tel petit fragment. Dans la naissance d'une foi authentique, bien que peu informée, et conduisant au salut. Mais vous voyez à quel point le sujet est délicat. Et le sujet devient particulièrement délicat, c'est mon dernier point, lorsque l'on considère les deux religions abrahamiques, justement à cause de toute la part de la révélation authentique de Dieu qui s'y retrouve encore, même dans le Coran. Et du coup, on peut se demander si des fragments importants dans ces religions peuvent servir à Dieu pour conduire au salut authentiquement certaines âmes. Je me rappelle, je peux dire cela pour finir. Je sais qu'il va falloir finir. Mais un ancien missionnaire au Pakistan, un homme de Dieu, je dirais unanimement révéré, qui, à la fin de sa vie, enseignait au séminaire Gordon Conwell, où j'ai fait mes études autrefois. Et en 89, j'avais rendu visite et il m'a invité à manger avec lui. Un homme qui rayonnait vraiment de l'intimité avec Jésus. Et il m'a raconté qu'il avait rencontré un musulman au Pakistan qui avait une vie personnelle de relation avec Jésus, quotidienne, qui connaissait vraiment Jésus. Il m'a impressionné. Je n'ai aucun moyen de vérifier, mais je n'estime pas que je puisse simplement écarter un tel témoignage et venant d'un tel homme. Et il est vrai que dans le Coran, à divers égards, Jésus est au-dessus de Mahomet, par exemple. Mahomet reçoit des réprimandes pour ses péchés, et jamais Jésus. Donc, est-ce qu'il y a, voyez, des virtualités dans ce conglomérat que le Coran constitue? Vous voyez comment la question posée sur le rôle éventuellement positif de certains éléments, mais importants là, de religion pourrait être envisagée. Je crois qu'il faut que je commente quand même encore la dernière question que j'ai mentionnée, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait malentendu. Je dis, peut-on assimiler certaines formes de catholicisme populaire alourdies de superstitions graves, et où celles-ci semblent jouer le rôle prépondérant, à ce qu'on trouve dans le judaïsme ou l'islam? Alors, première remarque, je distingue bien, il s'agit de certaines formes. Je ne veux absolument pas porter un jugement sur l'ensemble du catholicisme. Mais je crois indéniable, personnellement, qu'il y a eu dans nos pays des formes de catholicisme qui sont vraiment extrêmement superstitieuses, telles que je décris là. Et alors, le sens de ma question, c'est, si on dit ces formes-là, finalement, sont si proches du paganisme, que finalement, elles sont plus loin de la Bible que le judaïsme, nous serons quand même obligés de dire, me semble-t-il, que ces formes de catholicisme comprenaient, parce que l'évangile était encore lu quand même, la possibilité de salut par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui recevaient une telle empreinte. Alors, faut-il le dire pour le judaïsme et l'islam? Oui. Vous voyez le sens de ma question. Le sens de ma question n'est pas d'une critique du catholicisme, mais de montrer la complexité dans le rapport avec le judaïsme et l'islam. Voilà, simplement pour que nul ne se méprenne sur le sens de cette dernière question. Oui. Oui, oui. Je posais la question avec l'espoir que nous aurions le temps d'en débattre, de travailler ensemble là-dessus. Donc je ne peux rien faire de plus que de vous donner juste une toute petite idée de la réponse que j'apporterai à cette question, qui est donc celle du minimum de connaissances indispensables pour que la foi salutaire soit possible. Il faut un minimum. L'analyse classique de la foi inclut un élément de connaissance, je crois qu'il faut le maintenir. Ce minimum, à mon avis, n'est pas simplement un minimum relatif à la bonté de Dieu, ni même à sa justice et sainteté. Il doit comprendre le sens que Dieu va intervenir ou est intervenu pour régler le problème de notre faute devant lui, que la révélation générale permet de repérer, dont elle permet de prendre conscience. Il faut qu'il y ait en plus, me semble-t-il, cette pensée que Dieu s'en charge, et s'en charge d'une façon qui est conforme à sa justice, qui satisfait les exigences de sa justice. Et je ne verrai pas cette donnée dans la révélation générale de la création. Dans la création, je ne lis pas encore la rédemption, mais comme une implication de la providence. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Dans la providence, une fois le mal intervenu, il me semble que la pensée que Dieu intervient pour régler le problème du mal, est là. Si, par la révélation générale, je reconnais que Dieu est saint, et que je suis souillé, que je suis coupable, que sa sainteté devrait me foudroyer, qu'il est en même temps amour, et que je vois qu'il laisse l'histoire continuer, que dans sa providence, il déroule les siècles. Il me semble que la seule conclusion que je peux en tirer, c'est qu'il a un plan pour résoudre le problème insoluble de son amour pour moi alors que je suis sous sa condamnation. Vous voyez, ce n'est pas pour me faire griller à petit feu, pour me faire... dans son amour, quel peut être le sens de la persistance de l'histoire après la rébellion humaine, sous la souveraineté d'un Dieu saint et bon, sinon qu'il a un tel plan. Et donc, je crois, alors il faut le Saint-Esprit pour que cette confiance naisse, mais non pas une révélation objective supplémentaire. Il y a déjà là de quoi, si le Saint-Esprit meut le cœur, de quoi faire porter la confiance de l'être humain en Dieu, et comme c'est Dieu intervenant, c'est Jésus-Christ. Voilà.